Et je vous propose qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu, comme à l'accoutumée, comme chaque dimanche. Et cette semaine, on va regarder ensemble le dernier texte de notre série sur Jude. On va regarder ensemble les conseils pratiques que Jude donne à ses lecteurs, à qui il vient d'adresser une exhortation assez sévère en raison des faux docteurs qui sont au milieu d'eux. Et le texte que nous allons prendre se trouve dans Jude, versets 17 à 25. Jude, versets 17 à 25. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites précédemment par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui marcheront au gré de leurs propres désirs, en impies. Les voilà donc, les fauteurs de division, les hommes naturels qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priez par l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez compassion de ceux qui hésitent ou de ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée, souillée par la chair. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire sans défaut et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on te rend grâce pour ce texte éminemment pratique que tu donnes à la fois au premier lecteur de Jude, Seigneur, mais aussi à nous qui sommes rassemblés en ce jour de 2019 à l'Église réformée baptiste de la Trinité. Merci pour ce texte, Seigneur, qui nous parle de manière extrêmement pratique sur la manière dont nous devons nous comporter lorsque nous sommes confrontés à l'hérésie, lorsque nous sommes confrontés à la fausse doctrine, lorsque l'erreur nous enveloppe, lorsque les temps sont sombres, Seigneur. Merci parce que tu manifestes ta grâce à tes enfants en t'adressant à eux, Seigneur, encore aujourd'hui, en envoyant ta parole, Seigneur. Et nous te prions pour que cette parole aujourd'hui, elle puisse porter du fruit dans notre vie, porter du fruit dans notre cœur, nous diriger et nous conduire à salut, mon Dieu. Et aussi que nous puissions être ces témoins que tu veux que nous soyons, également ce soutien pour nos frères et sœurs que tu veux établir à travers nous, Seigneur. Et pour ce faire, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta grâce particulière aujourd'hui, pour être à la fois encouragé, à la fois béni, à la fois relevé, Seigneur, à la fois repris, mais surtout dirigé d'une manière claire, en sachant où aller par ton esprit et par ta parole qui nous guide. Seigneur, merci pour ce moyen de grâce que tu nous donnes encore une fois, que tu renouvelles cette semaine encore pour nous amener, pour nous rapprocher à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes loin par nature, nos péchés nous séparent de toi, mais tu t'abaisses jusqu'à nous. Tu condescends, Seigneur, à révéler ta parole à des créatures telles que nous sommes, à cause de Christ, à cause de son œuvre, et nous voulons nous montrer reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Alors bénis-nous ensemble maintenant, bénis ce temps de compréhension de ta parole, de discernement de ce que tu veux nous dire, et encourage-nous ensemble. Amen. Jusqu'ici, la lettre de Jude, elle a surtout la forme d'une mise en garde, puisque nous avons vu à Jude mettre en garde ses lecteurs contre les faux docteurs et clairement leur donner des critères objectifs pour savoir comment les identifier et comment identifier leur enseignement. Mais concrètement, à ce stade, si on est un lecteur et qu'on arrête la lettre ici, on se dit « Mais qu'est-ce que je peux faire en tant que lecteur ? Comment donc je devrais réagir ?» Jude leur donne donc, pour finir sa lettre, quatre conseils pratiques pour faire face à l'hérésie dans leur communauté, quatre exhortations pour lutter efficacement contre l'influence des faux docteurs. Et ce sont ces quatre exhortations, tout simplement, que nous allons lire aujourd'hui dans ce texte que nous avons sous les yeux. Et la toute première exhortation, on pourrait la résumer par une phrase. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Et si vous regardez bien le verset 17, vous allez vous rendre compte que Jude fait référence à une prophétie apostolique antérieure, une prophétie des apôtres. A priori, dans une prédication précédente, je vous avais parlé de l'autorité que Jude accorde aux apôtres, reconnaissant de facto une forme de ce que j'ai appelé une tradition apostolique, vous vous en souvenez peut-être. Autrement dit que d'emblée, dès les premiers temps de l'Église, les apôtres étaient vus comme un groupe de personnes ayant autorité. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient, ils étaient ce réceptacle, ils étaient dépositaires de la parole de Dieu. Et là, ici, le terme employé, cette parole dite précédemment par les apôtres, verset 17, eh bien, le terme original, rhéma, si ça vous intéresse, il fait habituellement référence au contenu d'un message prêché, bref, d'une prédication. Mais ici, l'idée est plutôt celle d'une sorte de prophétie antérieure, d'une parole que les apôtres auraient reçue directement de Dieu. Et ces paroles, nous dit-on, elles auraient été dites à l'avance, c'est-à-dire précédemment par les apôtres, et les lecteurs de Jude étaient censés les avoir entendus d'une manière ou d'une autre. C'était une prophétie, une parole, une annonce, une proclamation qui faisait donc autorité. Et cette prophétie, si vous regardez bien, elle nous est livrée au verset 18, eh bien, elle consiste en un avertissement assez clair de la part des apôtres, et elle dit ceci: « Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs et des gens qui marcheront au gré de leur propre désir en impie. » Ça ne se réfère pas directement à un enseignement biblique particulier, mais ça évoque en fait plusieurs textes qui souvent vont mettre en rapport cette notion de temps de la fin d'un côté, et de l'autre cette notion de faux docteurs, de faux apôtres, de faux croyants qui vont apparaître dans ces derniers temps. L'un des textes les plus connus probablement se trouve dans les épîtres pastorales, dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, un texte que vous devez certainement bien connaître, il y en aurait d'autres à citer, mais 1 Timothée 4, 1-3. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc vous voyez cette notion de faux docteur d'un côté, cette notion de fin des temps de l'autre, les faux docteurs arrivent et la fin des temps est marquée parce qu'ils se multiplient et qu'ils arrivent. C'est exactement la même idée qu'on retrouve chez Paul, la même idée qu'on retrouve chez Jude, et on sent bien qu'il y a comme un fondement derrière, une prophétie commune qui se retrouve derrière chacun de ces textes. Jude appelle ces faux docteurs ici des moqueurs. Le terme est relativement rare dans le Nouveau Testament, il se trouve dans 2 Pierre, si vous voulez tout savoir, mais 2 Pierre 2, je vous ai déjà dit, dépend de Jude, probablement, mais le texte est directement employé au texte qu'on appelle la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, et ce sont généralement des personnes qui étaient vues comme se moquant de Dieu, comme tournant en ridicule la doctrine de Dieu. Et l'idée ici, c'est que ce sont des personnes qui tournent en ridicule la doctrine de Christ, exactement comme leurs précurseurs dans l'Ancien Testament. Donc on a cette prophétie apostolique, cet avertissement apostolique qui semble faire écho à des textes fort anciens qui finalement ne font que se répéter au moment où Jude écrit sa lettre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Pour nous, ça veut dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours, y compris dans les mauvaises choses. Les apôtres avaient annoncé ces choses-là, et regardez ce que dit Jude, il dit « Les voilà donc, les fauteurs de division, ces hommes naturels qui n'ont pas l'esprit. » Il l'avait dit, vous vous souvenez qu'il l'avait dit ? Eh bien voilà, ils l'ont dit, nous y sommes. Les apôtres avaient annoncé, les lecteurs de Jude découvrent ces faux docteurs au milieu d'eux. Et qui sont-ils ? Ils sont des fauteurs de troubles, ils sont des diviseurs, ce sont des gens qui ne sont même pas chrétiens. C'est ce que dit en quelque sorte Jude ici. Il dit ils sont privés de l'esprit. Et en filigrane, on comprend ici ce que Jude est en train de leur dire. Il leur dit en quelque sorte, il leur dit « Comment vous avez pu avaler une telle couleuvre ? Comment est-ce que vous pouvez être dans une telle situation dans laquelle nous avons ces personnes qui disent des choses aussi grossières au milieu de vous, qui le font comme en pleine lumière, et vous les avez laissés faire, et vous n'avez pas réagi ? Non seulement vous auriez dû réagir, mais en plus vous étiez avertis. Et chers amis, nous sommes avertis. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les mêmes avertissements que ceux qu'ils ont reçus, et nous allons en voir d'autres dans cette prédication aujourd'hui. Nous savons que la parole de Dieu nous dit des choses pour notre instruction, et vous savez aussi bien que moi qu'il y a des textes qui nous percutent plus que d'autres, par exemple les promesses de bénédiction. Qui, en tant que jeune chrétien, n'a jamais souligné 3 fois en rouge, encadré en jaune dans sa Bible, Jérémie 29, 11 ? Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Tout le monde chérit cette promesse dans son cœur, alors que cette promesse, elle n'est même pas pour toi, elle est donnée aux Israélites au moment de la déportation, environ 6 siècles avant Jésus-Christ, et tout le monde se l'approprie directement comme ça. Oui, bien sûr que Dieu a des projets de bonheur pour ceux qui se confient en lui, c'est un fait, des projets de bonheur ultimes. Mais nous ferions bien également, lorsque nous chérissons les promesses de Dieu, mais aussi les exaucements de prière, ou encore les bénédictions qui sont portées à notre endroit, nous le faisons cela, nous chérissons ces passages-là parce que nous avons la foi que Dieu a la puissance de les accomplir, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Vous dites amen à ça. Dieu a la puissance d'accomplir ses promesses. Dieu a la puissance d'accomplir les vœux de bénédiction qu'il fait sur nous. Il le fait parce que ce qu'il dit, sa bouche l'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mais toutes les mauvaises choses que Dieu a annoncées s'accompliront également. Y compris lorsqu'il nous met en garde au sujet de faux prophètes. Tous les avertissements, toutes les menaces, toutes les prédictions les plus terribles s'accompliront si Dieu les a annoncées. Nous devrions prendre garde. Et l'application directe, fondamentale, dans ce texte extrêmement pratique que Jude veut donner à ses lecteurs, la première chose qu'il leur dit, c'est « n'oubliez pas la parole de Dieu ». Et c'est une application qu'on peut s'approprier directement pour nous. N'oublions pas la parole de Dieu, souvenons-nous-en, elle contient des bénédictions, certes, toutes ne vous concernent pas directement, il y a parfois un peu de contextualisation à faire, mais n'oubliez pas la parole de Dieu, n'oubliez pas ses bénédictions, n'oubliez pas aussi ses avertissements. Et nous ferions bien de nous souvenir de cette exhortation, souvenons-nous de la parole de Dieu. Le deuxième conseil pratique que Jude livre à ses lecteurs dans ce combat qui menaçait l'Église contre les faux docteurs, c'est « enracinez-vous dans la piété ». Deuxième conseil, « enracinez-vous dans la piété ». Regardez les versets 20-21. Dès le verset 20, on voit que d'emblée, Jude leur donne comme conseil de bâtir leur vie d'une manière qui soit conforme à la parole de Dieu, en quelque sorte de vivre conformément par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est un peu comme s'il leur disait « Mais vous, vous n'êtes pas ces faux docteurs. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous voulez suivre Jésus. Par conséquent, construisez-vous ensemble sur, et c'est là que Jude utilise l'expression, votre très sainte foi. » Vous vous souvenez sans doute, hein, on l'avait vu dans les premiers versets, lorsqu'il était question de combattre pour la foi reçue une fois pour toutes. La foi ici n'est pas, la confiance que vous placez en Dieu, ce n'est pas l'acte de confiance, c'est plutôt une métonymie. Vous savez, c'est une manière, une figure de style pour expliquer le contenu de ce en quoi vous avez placé votre foi, le contenu du message chrétien, le contenu du message apostolique en quelque sorte. Jude leur dit en quelque sorte « Ne faites pas comme eux, mais comportez-vous conformément à ce que vous croyez, c'est-à-dire à ce que la parole de Dieu vous enseigne. Conformez-vous à la parole. » En gros, il leur dit « Regardez, on a ces faux docteurs d'un côté qui falsifient l'évangile. Ils vous donnent une fausse idée de la grâce. Ils vous disent « La grâce, c'est la permission de faire n'importe quoi de sa vie, n'importe quoi de son corps, de se laisser aller à toutes les passions. » C'est une licence, et la grâce c'est ça, c'est la porte ouverte au plaisir, en quelque sorte. Il leur dit, ça c'est un faux évangile, et vous savez comment vous allez lutter contre ce faux évangile? Montrez par vos œuvres ce qu'est le vrai évangile. Ok, laissez-moi illustrer mon propos ici. Si je veux vous apprendre à discerner ce qu'est un faux billet de banque, il va falloir, à un moment ou à un autre, certes que j'examine avec vous attentivement les détails de ce faux billet, mais il faudra aussi très bien connaître ce qui caractérise un vrai billet, n'est-ce pas? À savoir sa texture, les personnages qui sont dessus, les motifs qui sont imprimés, les diverses signatures, il y a toujours plein de signatures sur les billets, Et puis, surtout, il va falloir que vous connaissiez bien les sécurités qui sont installées. Il y a de plus en plus de sécurités sur les billets modernes parce que, n'est-ce pas, nous avons tout un historique de faux monnayeurs. Donc, si je veux vous instruire à comment repérer un faux billet, il va falloir même que je connaisse très bien à la fois le faux billet, mais surtout le vrai billet. Car il faut le dire, certaines contrefaçons sont très dures à détecter. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà récupéré des faux billets. Quand vous vous en rendez compte parce que le commerçant à qui vous voulez le redonner est plus affirmé que vous, vous avez la honte de votre vie de n'avoir pas repéré ce faux billet. À vrai dire, l'illustration, elle a ses limites ici. Parce que clairement, l'erreur de ces hérétiques, elle n'est pas subtile. Elle n'est pas subtile du tout. C'est une très mauvaise contrefaçon. Je ne sais même pas si on peut parler ici de contrefaçon tellement c'est grossier cette manière de présenter la grâce. En fait, c'est comme si je mettais en circulation un billet de 20 dollars avec à la place de la tête de la reine, la tête de Donald Duck. Vous voyez ? Ça serait profondément ridicule, n'est-ce pas ? La seule chose que j'aurais à faire pour démontrer la fraude, ça serait de montrer même très généralement ce qu'est un vrai billet. Juste regardez, c'est quoi un vrai billet? C'est pas Donald Duck qui est dessus, c'est la reine d'Angleterre. Et par conséquent, tout le monde pourrait réaliser qu'il y a un problème avec ce billet de banque que j'aurais pu mettre en circulation. Et c'est exactement ce que Jude dit à ses lecteurs. Il leur dit, montrez la différence, c'est pas compliqué. Montrez-leur le vrai christianisme en vivant ce qui se trouve dans la parole. Pratiquez la parole et la différence va se voir tout de suite. Et les faux docteurs vont paraître comme la neige qui fond au soleil. La lumière se fera et vous allez voir enfin ce qui se passe avec ces personnes, leur mécanisme, leur fourberie va être vécue, va être mise en lumière au grand jour. Notez également l'emphase sur le thème de l'édification, c'est « bâtissez-vous vous-même sur votre très sainte foi ». Il ne leur dit pas simplement « pratiquez la parole », il leur parle de s'édifier mutuellement. C'est un langage qui est éminemment communautaire. Et presque toujours, quand vous avez un langage d'édification, c'est l'Église qui est en jeu dans le Nouveau Testament. Il leur dit en gros, les faux docteurs promeuvent la division. Montrez-leur la vérité de l'Évangile ensemble. Vivez votre vie en Église. Vivez-la d'une manière qui va manifester l'unité de Christ, qui va démontrer la fausse doctrine par notre prédication et par nos œuvres. S'édifier nous-mêmes comme un seul corps, une communauté unie dans l'obéissance à la parole, bienveillante les uns envers les autres, qui cherche à vivre une vie qui honore Dieu et qui montre de manière claire ce qu'est le christianisme authentique pour séparer le vrai du faux, l'erreur de la vérité. Il leur dit également, verset 20, « Priez par l'Esprit Saint ». Et il faut vraiment comprendre ici que Jude, il est en train de dire qu'il y a un contraste. Il dit, il les appelle comme cela, les faux docteurs sont des hommes naturels ou sensuels, ou appelez ça comme vous voulez, et il le dit, privés de l'esprit. Ces gens-là n'ont jamais reçu l'esprit de Dieu, mais vous avez l'esprit, priez par l'esprit. Voilà la recommandation de Jude. Les prières des croyants ne sont pas vides et vaines comme celles des faux docteurs qui n'agissent que par apparence et dont le seul but est de satisfaire par convoitise. Pour Jude, le combat contre les hérésies implique de parler, il implique d'agir, mais il implique avant tout de prier. Paul en 2 Corinthiens 10, 3, 5, il dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Oui, rétablissez la vérité de l'Évangile. Oui, agissez conformément à cette réalité. Mais vous avez l'Esprit de Dieu. Il est souverain. Confiez-vous en lui. La prière est puissante et efficace. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Regardez le verset 21. Il les encourage à rester dans cette sphère d'amour. Alors on peut se demander, d'où vient cette référence à l'amour comme ça d'un seul coup dans une lettre où finalement on clash, vous voyez, on vient directement challenger ces hérétiques. Et là, d'un seul coup, il parle de l'amour de Dieu. C'est probablement une référence à cet amour d'alliance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on en a parlé ensemble dans cette église à maintes reprises, notamment lorsqu'on étudiait le livre de Ruth, il s'agit du chesed, cet amour qui unit les personnes qui sont en alliance avec Dieu à Dieu. Et ce que dit ici Jude, c'est que cet amour-là les a tout d'abord attirés à lui. Vous relirez le verset 1 de l'épître de Jude. Mais comme l'ont démontré les faux enseignants, il est tout à fait possible d'être exposé à l'amour de Dieu, de voir une vie d'alliance sous les yeux, d'entendre la parole de Dieu et de tourner le dos à cet amour. C'est possible d'entendre la parole et de ne pas être régénéré par elle. C'est possible de faire une profession de foi qui soit fausse. C'est possible de se baser et de baser son existence ensemble toute sa vie sur une contrefaçon de l'Évangile. Les lecteurs de Jude doivent donc impérativement cultiver cette relation d'amour avec Dieu parce qu'il est au cœur de l'alliance qui les unit à Dieu. Si vous êtes en alliance avec lui, vous devez cultiver cette relation d'amour. Il est tout à fait probable que certains des lecteurs de Jude se jugeaient absolument illégitimes pour dire quoi que ce soit aux faux docteurs. Après tout, on l'a déjà vu, est-ce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes leurs problèmes, leurs tentations ou leurs péchés secrets ? Le reste de la lettre suggère d'ailleurs que certains étaient en passe de lâcher prise, qu'ils hésitaient, qu'ils doutaient, que peut-être ils allaient tomber plus loin, qu'ils étaient réceptifs aux arguments des faux docteurs, qu'ils étaient ébranlés, et déjà certains avaient commencé à prendre le chemin de les suivre dans leur fausse doctrine. Peut-être parce qu'ils voyaient leur lutte personnelle, peut-être qu'ils voyaient d'une part le péché sexuel dans leur vie, des luttes qui contenaient bien des défaites contre le péché, et d'autre part, ils voyaient ces faux docteurs qui leur disaient en gros « c'est normal, tout le monde a ses questionnements sexuels. Après tout, pourquoi est-ce que Dieu t'aurait laissé avec cette sexualité si ce n'était pas sa volonté ? Viens avec nous, on va vivre conformément à la sexualité que Dieu nous a donnée. » Voilà le genre de discours subtil que les faux docteurs donnaient aux croyants auxquels Jude écrit. Et très certainement, si ça avait un écho aussi formidable, c'est qu'ils voyaient leur propre faiblesse et leur propre lutte dans leur vie. Mais Jude dit ici, ces gens-là ne sont pas dans l'amour de Dieu. Ils ne sont pas dans l'amour d'alliance qui vous unit à lui. Oui, vous luttez. Oui, peut-être vous chutez. Mais justement, à cause de cela, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Chers amis, il faut ici qu'on fasse une parenthèse et qu'on s'arrête un instant là-dessus. Parce que le péché qui vous travaille encore ne devrait pas vous amener à vous écarter de Dieu. Or, si souvent, lorsque nous péchons, lorsque nous sommes trop réceptifs à une tentation et lorsque nous nous sentons seuls devant Dieu, nous refusons même de nous adresser à lui. Écoutez ce que dit Jean Calvin à ce sujet. Il dit « Nos péchés ne doivent pas nous faire craindre de nous adresser à Dieu. » Car même s'il est bon et bienveillant, nous l'avons irrité par nos offenses. Parmi les hommes, un fils ne saurait avoir un meilleur avocat devant son père qui l'a offensé que lui-même, si, avec humilité et dans l'obéissance, reconnaissant sa faute, il vient demander pardon. Un cœur paternel ne peut mentir et se laissera fléchir et émouvoir par de telles prières. Ok, clairement. En couleur cette fois-ci. Tu luttes avec un péché particulier. La solution n'est pas de te dire que ce péché est dans le plan de Dieu et qu'il est acceptable. Tu galères dans tel et tel aspect de ta vie. La réponse à cette galère n'est certainement pas l'antinomisme, n'est certainement pas le rejet des commandements de Dieu. La solution à nos problèmes quotidiens, à ce qu'on appelle le péché rémanent, ce truc qui nous tenaille encore malgré qu'on soit régénéré, déjà on a les arts de l'Esprit de Dieu, la résurrection est déjà acquise d'une certaine manière, nous savons que Dieu nous ressuscitera au dernier jour. Le fait même que nous soyons dans ce moment d'attente et qu'on voit encore ces péchés qui nous troublent, la seule solution qui nous est offerte, c'est la seule et unique et c'est la seule qui soit viable, c'est de nous élancer et de nous jeter dans les bras de Christ. C'est cette relation d'amour. Il pardonne, il transforme, il restaure. Et oui, l'Église est vue comme un havre de paix pour les pécheurs qu'elle accueille pour tous ceux qui veulent progresser en lui. Voilà l'appel qui nous est fait dans l'Évangile. Et c'est ce que Jude dit, que vos péchés ne vous écartent pas de Dieu, mais plutôt qu'ils vous conduisent à lui avec un esprit repentant. Maintenez-vous dans l'amour d'alliance de Dieu et ne défaillez pas. Ne vous éloignez pas, n'apostasiez pas, comme le font ces faux docteurs. Restez accrochés à la parole. Mais il continue, regardez la fin du verset 21. Il leur dit en quelque sorte, « Soyez dans l'attente de ce jour où vous serez délivrés. » Il dit, « En attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Je ne sais pas si vous notez depuis le début qu'on lit ce texte, les multiples références à la fin des temps, les faux docteurs apparaissent dans les derniers temps, et Jude indique à ses lecteurs que Dieu les fera tenir devant sa gloire, encore une fois une référence au dernier temps qui est en vue ici. Et ce que Jude dit à ses lecteurs, c'est de tenir ferme, de montrer le vrai christianisme par leurs paroles et leurs œuvres, de se maintenir dans l'amour d'alliance de Dieu, dans la sanctification, etc. Mais il n'est pas en train de leur dire « Tenez bon et puis on verra quand est-ce que vous serez délivrés ». Il leur dit « Tenez bon en ayant en vue cette perspective du jour de Dieu où il va venir vous rencontrer, venir vous récompenser, venir vous délivrer. » Et mes amis, il y a ici quelque chose de très fort. C'est que ce même jour, qui sera un jour de honte et de châtiment pour ceux qui se seront moqués de Dieu, qui se seront détournés de lui, qui auront craché sur sa grâce, ce jour-là même sera celui de la délivrance des croyants. Le jour de l'Éternel, un jour terrible de souffrance pour les faux docteurs, un jour de jugement, un jour de condamnation, un jour de souffrance, mais pour tous ceux qui sont en Christ, c'est un jour où ils hériteront de la plénitude de sa compassion. Fini les tensions sans fin de la chair, fini le péché rémanent, il essuiera toute larme de leurs yeux et ils pourront goûter une fois pour toutes à la plénitude de sa grâce. Voilà l'échéance qui nous est donnée en Christ. Et voilà l'issue de votre combat. Ne vous inquiétez pas que si Paul vous dit « Je sais, je désire être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur », c'est parce qu'il savait que dans ce monde, malgré toutes les bonnes choses qu'il pouvait y trouver, au premier rang desquelles la communion fraternelle qu'il chérissait tant, il savait qu'être avec Christ était meilleur, parce que c'était le lieu où ses larmes seraient essuyées, c'était le lieu où ses tentations seraient derrière lui, c'était le lieu où le péché, qui est pire que l'enfer même à nos yeux, serait une fois pour toutes loin de lui, derrière, sorti de sa vie. » Troisième conseil, troisième exhortation de Jude. Ayez de la compassion pour ceux qui sont dans l'erreur. Eh oui, chers amis, ayez de la compassion pour ceux qui sont dans l'erreur. Ce qui me frappe particulièrement, c'est que dans ces quatre conseils pratiques, Jude commence par vous dire de vous focaliser sur votre relation avec Dieu avant de vous focaliser sur votre relation avec ceux qui sont dans l'erreur. C'est assez extraordinaire qu'il ne nous envoie pas directement au casse-pipe dans ses conseils pour aller directement se battre avec ses faux docteurs. Non, il commence par dire « Souvenez-vous de la parole de Dieu, que votre vie se conforme à la parole de Dieu. » Puis il parle une nouvelle fois de comment interagir avec ceux qui sont dans l'erreur. Une fois encore, cet épître, ce n'est pas une invitation à réagir à l'emporte-pièce, ce n'est pas une invitation à tirer plus vite que son ombre. Ce n'est pas une invitation à être le Lucky Luke évangélique, n'est-ce pas ? Celui qui tire tout azimut et qui règle ses comptes à hockey choral. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est absolument pas l'appel de cette épître. Et à vrai dire, de tout le passage, si on doit retenir un terme clé, ce terme clé, c'est le mot « compassion ». Trois fois, il utilise le terme « eleos », »,« eleao », d'une part pour souligner la compassion et la miséricorde réservée aux croyants, vous savez, c'est ce fameux jour de la compassion de Christ qu'on vient de voir ensemble, mais d'autre part pour indiquer la compassion dont les croyants doivent faire preuve envers ceux qui sont tentés par les positions des faux docteurs. Et d'emblée, il présente les situations comme étant différentes les unes des autres. Il appelle à la nuance. Il ne vous balance pas comme ça directement un principe général sur comment interagir avec eux. Il vous montre qu'il y a des cas de figure différents. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Il parle d'une compassion pour ceux qui doutent, pour ceux qui hésitent. Et oui, certains pouvaient être ébranlés par la prédication des faux docteurs. Et si c'était la réponse à mes luttes ? Et si c'était la réponse à mes chutes ? Est-ce que je n'aurais pas placé la barre trop haut ? Est-ce que je ne serais pas un, un légaliste, vous savez, on va vite avec le légalisme parfois, on oublie obéir aux commandements de Dieu n'est pas du légalisme. Obéir aux commandements de Dieu, c'est vouloir se soumettre à la parole de Dieu. Mais parfois, on se demande, est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que je ne suis pas juste à l'excès? Est-ce que j'en en fais pas trop? C'est une interrogation légitime. Mais Jude encourage ses lecteurs à ne pas être durs avec de telles personnes. Ils encouragent à faire preuve d'empathie. D'une manière générale, un croyant qui flirte avec de faux enseignements ne doit pas être méprisé par ses amis chrétiens. Et à l'heure de Facebook et de Twitter, c'est très dur de respecter son prochain sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Mais un croyant qui flirte avec un faux enseignement ne doit pas être méprisé par ses amis chrétiens. Ils doivent l'inviter à prendre un café, ils doivent s'asseoir avec lui, ils doivent lui parler avec amour, ils doivent le convaincre de ses égarements, certes, mais en maintenant la relation avec lui, en faisant preuve de miséricorde, avec, je pourrais dire, un terme qui est lié, synonyme, et qui pourrait être comme un terme clé, là encore, c'est le mot « empathie ». Première expérience de management que j'ai pu avoir dans ma vie, c'était dans une société qui s'appelle Adeco, qui fait du travail temporaire. Ça allait vite, on avait beaucoup de travail, et puis souvent il fallait être vraiment très, très ferme avec les collaborateurs qui étaient très sollicités, c'était dur. Et je me rappelle d'une chef qui savait la pression à laquelle elle était soumise, elle n'arrêtait pas de nous dire en réunion de cadre, elle nous disait tout le temps, le mot-clé c'est « empathie ». Et là, c'est exactement ce qu'il leur dit, là. Il leur dit « C'est bien, là, vous avez découvert la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle dit, vous avez l'impression de vivre selon ses préceptes et ses principes, vous vous sentez fort dans la foi, faites preuve de compassion. » Fais preuve de compassion. Tu ne sais pas où est-ce que tu en seras demain. Il y a des gens qui ont une empathie naturelle, chers amis. Et souvent, le danger pour eux, c'est de ne pas tomber dans une compréhension excessive qui les empêche de réagir quand vient le moment de prendre position. Puis il y a des gens qui, comme moi, apprennent l'empathie en se prenant des claques par la vie. Les circonstances nous enveloppent et nous entourent. On se rend compte qu'on a fait des erreurs, qu'on a fait le bulldozer chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis tu te retournes derrière, tu vois toutes les personnes que tu as écrasées dans ton sillage. Vous connaissez ce genre de profil ? Vous avez Guillaume Bourin devant vous, il porte bien son nom, vous voyez ? La réalité, chers amis, c'est que nous avons des personnalités, des profils différents, mais nous sommes tous appelés à faire preuve de compassion dans des cas comme celui-ci. Mais tous les cas ne sont pas comme cela. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin, verset 23. Il parle de sauver les uns en les arrachant au feu. Oui, c'est encore une forme de compassion, mais on parle ici d'une sorte de compassion violente ici. Une compassion violente pour ceux qui sont en passe de chuter. On parle de personnes qui ne sont plus vraiment en train d'hésiter ici, qui n'ont plus vraiment de doute, mais qui sont déjà sur un mauvais chemin. Il faut les confronter. Et l'image choisie par Jude est sans équivoque. Il parle d'une image de feu, presque d'une maison qui brûle. Ok, imaginez-vous que vous vous baladez du côté de l'île des Sœurs, un samedi après-midi, et vous arrivez vers rue de Gaspé par là, vous savez, c'est une zone où il y a des gens sympas qui habitent, vous voyez un bâtiment qui commence à brûler, vous dites « Waouh, c'est quoi cet incendie ?» Et là, vous voyez à la fenêtre au 7e, Christian, avec son téléphone en train de téléphoner, qui ne se rend même pas compte que le bâtiment est en train de prendre feu. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer d'appeler Christian sur son portable ? Vous allez lui faire des sourires ? Vous allez être gentil avec lui ? Vous allez l'inviter à prendre un café pendant qu'il est en train de se consumer ? Où vous allez crier, où vous allez hurler pour qu'il prête attention aux flammes qui sont autour de lui, voir si vous êtes téméraire, vous allez enfoncer la porte, courir ventre à terre dans l'escalier pour aller chercher votre frère et le descendre avec lui parce qu'il ne se rend pas compte du feu qui est autour de lui dans sa maison. Quelle serait la compassion dans un cas comme celui-là ? Être nice ? Certainement pas. Il y a des moments où nous sommes appelés à confronter ceux qui sont dans l'erreur. Ce n'est pas tous les moments, mais il y a des moments. Et nous sommes appelés à faire preuve de discernement. Et encore une fois, la parole de Dieu nous appelle ici à une forme de sagesse. Elle ne nous donne pas des critères stricts pour séparer celui qui est encore en train d'hésiter de celui qui est déjà tombé. Vous voyez, elle nous appelle à une forme de sagesse, de pondération, de retenue, d'analyse, de réfléchir avant d'agir, tout simplement. C'est ce qu'elle attend de nous ici pour que nous puissions discerner entre deux types de situations comme celle-là. Et enfin, verset 23, On parle maintenant de compassion pleine de crainte, cette fois-ci pour un groupe de personnes qui sont ceux qui ont chuté. Regardez ce que dit le texte. « Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, en haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » On parle ici clairement des faux docteurs eux-mêmes ou de ceux qui les suivent, qui sont les plus endurcis dans cette doctrine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du message qui est dit ici. Le message qui est dit ici, c'est, écoutez bien ça, « Ayez compassion même de l'hérétique le plus endurci. » Oui, « Ayez compassion de l'hérétique. » On n'est pas en train de vous dire ici qu'il faut faire comme si de rien n'était. Il n'est pas du tout question non plus de ne pas réagir conformément à l'hérésie qui a cours. Mais c'est plutôt l'idée d'avoir une compassion tellement forte qu'on a de la crainte de peur que nous-mêmes nous soyons entraînés dans la même situation. Il y a un stade, chers amis, où on ne peut pas aller. Il y a une manière qui pourrait, chez ces personnes, nous contaminer et nous souiller. Et je sais que ce que je dis là est extrêmement dur, parce que je parle ici parfois de couper des relations. Je suis convaincu, à titre personnel, qu'en tant que chrétien, il y a des relations personnelles qu'on ne peut pas entretenir, notamment avec ceux qui tournent la grâce de Dieu dans des choses fausses et qui le font de manière militante pour attirer certains autres avec eux. J'ai toutes sortes d'amis dans ce monde, des gens qui pensent complètement différemment de moi. J'ai des gens qui ne sont pas chrétiens, je connais des musulmans, je connais des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je crois. Mais il s'avère que ces personnes sont cohérentes avec leur système de pensée. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui veut se faire passer pour chrétien, falsifie sciemment la parole de Dieu, cherche à diviser des églises, use de dissimulation, cherche à profiter de l'argent des gens, comme ces faux docteurs dans l'épître de Jude, vous ne pouvez pas exercer une forme de discipline en allant derrière leur faire des bisous et leur dire que vous les aimez. Ça ne marche pas comme ça. Faire preuve de compassion dans ces cas-là n'exclut pas couper d'une certaine manière les relations. C'est ce que dit Paul. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 5. Il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre, dit-il, de ne pas avoir des relations avec les débauchés. » Et puis ici, toute une liste de vices. Il dit, « Je ne le dis pas d'une manière absolue, parce que sinon, il faudrait vous couper des débauchés, des pervertis, bref, presque du monde entier. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre en dehors du monde, dit Paul. » Je paraphrase ici. Mais ce qu'il leur dit, c'est que de couper toute forme de relation de ceux qui, tout en se disant frères, continue à pratiquer ces choses-là de manière impunie, d'une manière qui manifesterait qu'ils prétendent être chrétiens avec leur bouche et que leur vie et leur manière de considérer leur vie est tout simplement un crachat à la figure de Dieu. Et je conçois ici, encore une fois, que nous avons tous nos problèmes, nous luttons tous avec le péché. La question, c'est comment vous considérez ce péché ? Il y a un point de non-retour où nous ne pouvons pas suivre de telles personnes. Mais ce point-là n'est que rarement atteint par les gens qui nous entourent. Je vous le dis, ça fait maintenant 15 ans que je suis chrétien. J'ai côtoyé toutes sortes de personnes dans le milieu évangélique et en dehors. Okay ? Des faux docteurs, j'en ai pas rencontré tant que ça. J'ai vu des gens qui se trompent, j'ai vu des gens qui hésitent par rapport à la tromperie, j'ai vu des gens sincères qui se sont réellement pris les pieds dans le tapis mais qui n'étaient pas en train d'essayer de créer des divisions dans les églises ou de faire ce que les faux docteurs de Jude faisaient. Mais à titre personnel, des gens qui avaient ce type d'attitude, j'en ai rencontré, mais ce n'est pas la majorité des gens que j'ai rencontrés, vous comprenez ? Il n'y avait rien qui justifiait que je traite tout le monde de cette manière-là et que je me coupe du reste des chrétiens. Pourtant, ça existe. Et nous devons être avertis. Et nous devons reconnaître quand cela arrive. Le point pratique pour nous qui lisons ce texte au XXIe siècle, c'est que chaque situation est différente. Il n'y a pas une et une seule catégorie de personnes touchées par l'hérésie, comme le souligne Jude. Nous ne sommes définitivement pas appelés à mettre tout le monde dans le même sac. Nous ne sommes définitivement pas appelés à lancer un ministère de discernement pour tirer sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Nous sommes appelés à faire preuve de finesse, de discernement et par-dessus tout de compassion et d'empathie, même quand nous devons couper certaines relations avec des gens qui seraient nocifs et toxiques pour notre assemblée et notre église, car ces situations peuvent exister. Et quand une église est en bonne santé, ce style de situation est géré par ce qu'on appelle la discipline d'église. nous coupons un membre ou quelqu'un qui se prétend membre tout simplement parce que cette personne vit une vie qui ne reflète pas ce que dit la parole de Dieu. Et on le fait non pas parce qu'on est content de punir quelqu'un, on le fait avec tristesse, on le fait avec un fardeau intérieur, parce que ce que nous voulons, c'est préserver l'Église et amener cette personne à la repentance. Et c'est ce que Jude appelle ses lecteurs à faire avec les faux docteurs, mais il appelle aussi à la finesse et à traiter chaque cas de manière individuelle. Quatrième et dernier conseil, peut-être le plus important de tous. Confiez-vous dans la souveraineté de Dieu. Confiez-vous dans la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 24. Il parle de celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire sans défaut et dans l'allégresse. Chers amis, c'est dur ce qu'on vient de lire. Les quatre sermons que nous avons eus sur cet épître de Jude, il y en a au moins trois qui nous parlent de situations dramatiques qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de connaître. Qui a envie d'être embarqué dans un truc où il est obligé de se couper de gens qui fréquentent son église? Vous vous rendez compte de cela? Jamais on voudrait vivre ça. Jamais l'église de la Trinité veut, et on ne l'a jamais vécu, mais jamais l'église de la Trinité voudrait vivre ça, n'est-ce pas? Mais ces situations, chers amis, ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle absolument toute chose et nous ne devons pas penser que certaines situations lui échappent ou qu'il est surpris par quoi que ce soit. Et Jude sait très bien que cette situation qui le préoccupe, elle n'est pas en dehors du plan de Dieu. C'est avec confiance qu'il conclut sa lettre avec trois encouragements. Premier encouragement, Dieu peut vous préserver de toute chute, verset 24. Ça, c'est un encouragement puissant pour ceux qui hésitent, par exemple, ceux qui sont ébranlés par le message des faux docteurs. C'est un encouragement également pour ceux qui voient leur tentation et leur chute comme un obstacle à prendre position, à aller confronter les fausses doctrines. Il leur dit, vous luttez, vous souffrez, mais n'abandonnez pas, confiez-vous dans le Dieu qui est suffisamment puissant pour vous préserver de toute chute. C'est un encouragement pour nous, dans ce temps d'attente dans lequel nous sommes. Dieu a la capacité de nous préserver du péché. Dans cette attente, malgré les tensions de la chair, malgré les nombreuses tentations du monde, oui, il y a une solution. Oui, nous pouvons nous confier en lui. Et même dans nos découragements les plus forts, nous pouvons chercher sa face. Nous n'avons aucune raison de sombrer dans l'antinomisme. Nous n'avons aucune raison de prendre les commandements de Dieu et de les jeter au loin juste parce que nous n'y arrivons pas. Dieu est capable. Deuxième encouragement, il peut vous faire tenir devant sa gloire. Et peut-être vous ne réalisez pas ici ce que ça signifie pour ces lecteurs premiers chrétiens qui ne disposaient pas de la totalité du Nouveau Testament, mais qui lisaient essentiellement l'Ancien. Pour eux, c'était une référence directe à un passage bien particulier, celui de Moïse qui dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Hey, »« Hé, fais-moi voir ta gloire. » Qu'est-ce que Dieu lui répond ? « Désolé, ce n'est pas possible. »« Ce n'est pas possible. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. » Mais comme je t'aime bien, Moïse, je ne te montrerai que ma bonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Moïse, il le place dans le creux d'un rocher, place sa main, probablement c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme ici, une représentation à l'image humaine de ce qui s'est passé, sans que ça soit réellement, littéralement comme ça, et il est passé en proclamant l'Éternel, l'Éternel, riche en bonté, en miséricorde. Bref, je paraphrase ici, mais Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit, je ne te ferai voir que ma bonté, car personne ne peut voir ma gloire est vivre. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il est resté courbé dans le creux d'un rocher. Qu'est-ce que dit Jude à ses lecteurs? Dieu a le pouvoir de vous faire tenir debout, debout devant sa gloire. Une promesse pour nous. On aime les promesses, pas vrai? Nous verrons la gloire de Dieu. Nous serons encore plus proches que ne l'était Moïse. Nous le serons parce que ça sera en Christ. Nous n'avons pas besoin de pseudo-révélations comme ces faux docteurs l'affirmaient. Nous n'avons pas besoin de plus d'autorité, de plus d'argent, de plus de réalisation. Nous avons besoin de Christ. Christ est venu dans le monde. Dieu, le Fils unique venu du Père, il s'est placé devant ceux qui l'ont vu de leurs yeux. Et Jean dit, nous avons contemplé quoi? Sa gloire. La gloire comme celle d'un Fils unique venu du Père. En Christ, nous voyons déjà et nous verrons pour de bon la gloire de Dieu. Dieu assure notre position d'une manière encore meilleure que celle de tous les prophètes de l'Ancien Testament quand nous nous confions en lui. Il dit aussi, il peut vous rendre absolument parfait et joyeux. Regardez la fin du verset 24. Ce grand jour de colère qui consumera ceux qui méprisent Dieu et sa sainteté sera également un grand jour de délivrance pour ceux qui se confient en lui. Il nous prendra avec lui et il essuiera toute larme de nos yeux. Le péché et la mort n'existeront plus. Alors nous serons à la ressemblance de Christ, nous serons ce qu'on appelle impeccables dans le sens originel du mot. Impeccable, c'est pas quand tu nettoies ta cuisine et que tu as terminé. Impeccable, littéralement, c'est sans péché. Nous serons impeccables, sans tache ni péché. Et alors, ce sera notre joie la plus parfaite, la plus pure, telle qu'aucune expérience dans ce monde aujourd'hui ne peut la décrire. Voilà ce que dit Jude à ses lecteurs. Et c'est là notre espérance. C'est là ce qu'était l'espérance des lecteurs de Jude. Oui, les situations comme celles que l'Église vivait sont inconfortables, mais nous pouvons être sûrs que Dieu nous en délivrera également. Il dit à ses lecteurs, oui, c'est dur ce que je vous écris, mais Dieu a toutes choses en son contrôle, et voilà ce que Dieu va faire pour vous. Confiez-vous en lui. Verset 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Jude termine sa lettre par une doxologie. La plupart des lettres du Nouveau Testament terminent comme ça. Peut-être une fait exception. Il s'agit de l'épître aux Galates, où Paul est particulièrement alarmé par la fausse doctrine judaïsante, complètement le contraire de ce qui se passait pour les lecteurs de Jude, mais Paul s'affole de cette doctrine. Et il sait que la lettre ne terminera pas ainsi. Il les met violemment en garde, il est très préoccupé. Mais Jude, lui, il termine sa lettre par une doxologie. Il glorifie Dieu. Aucune amertume, aucune forme d'irritation. Il sait que la situation est terrible, préoccupante. Mais il est fondé dans la parole de Dieu. Sa piété est bien enracinée. Il est en clair, au clair avec les faux docteurs. C'est une doxologie qui le conduit à une joie profonde. Comment est-ce que c'est possible, après avoir écrit une telle lettre, de finir sur une telle note ? Il ne monte pas un ministère de discernement. Il ne part pas clamer son irritation et son amertume sur Facebook. Il met en garde. Il s'en remet à Dieu. N'est-ce pas là ce à quoi l'ensemble de la parole de Dieu nous appelle? Et j'en veux pour preuve. Quelques années auparavant, Paul a connu une situation similaire à Éphèse. Et alors qu'il va mettre en garde les anciens, il leur tient un discours teinté d'espérance, de joie et de confiance dans la souveraineté de Dieu. Laissez-moi vous lire ce qu'il dit dans Actes 20. Il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était chère, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et écoutez comment il continue. « Maintenant, je sais bien que vous ne me reverrez plus, vous tous parmi qui je suis passé en proclamant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur de votre sang à tous. » Car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé, sans rien dissimuler. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit-Saint vous a nommé évêque, ancien. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je le sais bien, moi, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-même, vous les anciens à qui je parle maintenant, que d'entre vous-même se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous, et maintenant je vous confie à Dieu et à sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. N'est-ce pas là le plus bel exemple d'un apôtre luttant contre l'hérésie, en plaçant toute sa confiance dans la souveraineté de Dieu et en ayant de la joie, même en sachant qu'une église qu'il avait implantée allait passer par de tels moments. Donc le Seigneur, chers amis, puisse nous aider à faire preuve d'un tel zèle et d'hériter en retour d'une telle paix et d'une telle joie, confiant dans un Dieu souverain qui peut nous préserver de toute chute et nous faire debout, nous faire tenir debout devant la gloire de Dieu. C'est sa promesse pour nous aujourd'hui. Il nous délivrera de l'épreuve. Tenons ferme, soyons fidèles. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous rappelles, combien nous avons besoin de toi, Seigneur, et combien nous devons nous confier en toi, parce que nous n'avons pas les solutions en nous-mêmes. Nous avons juste besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons juste besoin que tu augmentes notre foi. Nous avons juste besoin que tu nous donnes la paix. Nous avons juste besoin que tu sois avec nous. Seigneur, sois cette présence quotidienne qui nous aide à prendre les bonnes décisions et à agir d'une manière qui te glorifie et qui t'honore. Préserve-nous de l'erreur, mon Dieu. Donne-nous de bien réagir face à l'erreur. Donne-nous du discernement et de la sagesse. Et remplis-nous de cette plénitude, Seigneur, cette plénitude de joie et de paix qui t'appartiennent et que tu distribues sans compter à ceux qui sont à toi. Amen.